On va aller chercher le bon accord, celui d'une Calédonie française. Les partisans de la France étaient réunis en meeting hier soir à quelques jours de l'ouverture du sommet de Paris sur la Calédonie. Un meeting au cours duquel ils ont rendu hommage à France de Bien dit Poupoun, figure de la brousse et du RPCR, il s'est éteint hier. Toute société a besoin de justice, il faut une justice crédible et compréhensible. Le nouveau procureur général Camille Miancioni était ce matin notre invité. Nouvelle séance au Congrès ce matin, les élus examinent depuis ce matin en deuxième lecture un projet de loi du pays sur la création d'une taxe sur les croisiéristes. À l'étranger, Téhéran reconnaît des dégâts importants sur ses sites nucléaires après les bombardements américains et israéliens. Donald Trump parle de victoire. En football, déception pour l'équipe de France des moins de 21 ans. Les Bleuets ont été sèchement battus ce matin en demi-finale de l'Euro Espoir par les Allemands 3-0. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans un marché de l'emploi bouleversé et mis à mal par les émeutes de mai 2024, de nombreux Calédoniens se posent ou se sont posés la question d'une reconversion professionnelle. Est-ce une réelle opportunité? Vers qui se tourner? Existe-t-il des accompagnements? Est-ce aussi une opportunité pour créer sa propre activité? Ce sera donc le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. On se retrouve avec nos 5 invités dès la fin de ce journal. Les partisans de la France veulent porter à Paris le projet d'une nouvelle Calédonie française et prospère. Lors d'une réunion publique hier soir à l'Arène du Sud, ils ont souhaité l'abandon du projet d'indépendance association porté par Manuel Valls, Elisabeth Noir.
Les loyalistes et le Rassemblement se disent soulagés que le président de la République reprenne la main en convoquant un sommet le 2 juillet à Paris. Les partisans de la France qui tenaient une réunion publique hier soir à l'Arène du Sud, à quelques heures de leur départ pour Paris, où ils vont participer précisément à ce sommet présidé par Emmanuel Macron. Pour la chef de file des loyalistes, Sonia Bekes, la convocation de cette réunion est un soulagement après ce qu'elle qualifie de cauchemar de Deva, et elle a tenu à rassurer ceux qui doutent des engagements d'Emmanuel Macron.
Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, et il nous l'a dit à ceux qui l'ont vu, à Nicolas, à moi et à d'autres responsables politiques nationaux qui ne sont pas forcément ses alliés et qui nous ont dit clairement qu'il était sans ambiguïté sur le sujet, il a une ligne rouge absolue, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit rester dans la République française.
Les discussions à Paris comprendront un volet institutionnel qui se tiendra sous la présidence d'Emmanuel Macron, assure Sonia Bekes. Elle relève aussi l'importance du volet économique et social qui portera sur la relance économique, sur le nickel ou encore sur le système de santé. Le membre du gouvernement, Christopher Jugès, est ensuite revenu sur quelques-uns des dossiers économiques qui seront examinés à Paris. Et Gilles Brial a pour sa part expliqué à la tribune le projet porté par Manuel Valls. Pour lui, le projet Valls, c'est l'indépendance et c'est une trahison.
À Deva, l'État, il était à côté des indépendantistes. L'État de Valls, hein, je vous parle pas de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Donc on avait les indépendantistes et Valls en face de nous. Donc à Deva, on lui a mis une première flèche dans les côtes. Le projet, il est comme ça. Et la première des choses qu'on va devoir faire à Paris, c'est l'achever pour qu'on enterre définitivement ce projet et qu'on parte réellement d'un nouveau projet.
Depuis Paris et par visioconférence, Virginie Rufnacht a appelé à la confiance et elle a insisté sur l'importance du lobbying et de la détermination pour s'opposer au projet du ministre des Outre-mer. Pour le député Nicolas Metzdorf, enfin, le sommet qui va se tenir à Paris est un moment crucial et il a indiqué les messages que les partisans de la France vont porter à Paris.
La première chose déjà, c'est de rappeler à Paris constamment, régulièrement, qu'on n'oublie pas et on ne pardonne pas le 13 mai. C'est pas une question de revanche, c'est pas une question de colère, c'est pas une question d'aigreur. C'est on ne peut pas soigner quelque chose si on ne fait pas le bon constat. On ne peut pas réparer quelque chose si on ne sait pas ce qui est cassé. Et considérer que parce qu'on fait des discussions, parce qu'on fait des négociations, on est au même niveau entre ceux qui cassent et ceux qui réparent, ceux qui haïssent et ceux qui aiment, ceux qui construisent et ceux qui détruisent, ça n'est pas possible.
Le projet nouveau ne peut être que dans la France et on va aller chercher le bon accord, celui d'une Calédonie française et prospère. C'est ce qu'ont affirmé tous les orateurs des loyalistes du Rassemblement qui ont aussi insisté sur leur parfaite unité. Un rendez-vous indispensable avant les rencontres importantes, souligne Sonia Bekes.
C'est important pour nous de toujours, avant chaque séquence, après chaque séquence, informer les gens, avoir des échanges avec eux, savoir ce qu'ils ressentent. Parce que c'est eux qui nous portent, c'est eux qui nous permettent d'être forts dans les discussions. Et donc, on continue à le faire à chaque fois, dans des endroits différents, de manière à ce que les Calédoniens aient l'info. Je pense que la période, elle est cruciale. Ce qui va s'ouvrir maintenant, c'est fondamental. Le président de la République, il n'y a personne au-dessus. Donc, ce moment, il est essentiel et c'était important que les Calédoniens sachent ce qu'on a à dire.
Une réunion publique à laquelle assistaient un millier de militants et de sympathisants des loyalistes et du Rassemblement. Une réunion qui avait été ouverte par le président du Rassemblement, Alcide Ponga.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie convoqué à Paris par le président de la République à partir du 2 juillet sera-t-il selon vous déterminant pour l'avenir? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 67% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils trouvent utile de développer un service de type Uber en Calédonie. Ils sont 33% à penser que ce type de service n'est pas utile. Nous vous annoncions hier soir le décès de France Debien, une véritable figure de la brousse et du RPCR, plus connu sous le nom de Poupoune Debien. Il a notamment été élu en province Nord et au congrès de 1999 à 2009 et il avait siégé dans le conseil municipal de Vaud. L'annonce de son décès a attristé la réunion des partisans de la France qui se déroulait à l'Arène du Sud. Avant les discours, le président du Rassemblement, Alcide Ponga, a fait observer une minute de silence à la mémoire de cette personnalité du Nord à qui il a tenu à rendre hommage.
Poupoune, c'était un fervent fidèle de Jacques Lafleur à l'époque, des vieux, à l'époque des anciens, à l'époque où il fallait se tenir debout, à l'époque où la Calédonie, elle tanguait et où ça brûlait, où ça cassait, surtout dans le Nord, en 84, en 88 et tout ça. Et il a continué le cheminement en tant qu'élu dans la province Nord, en étant à la commune de Vaud. Il a toujours défendu, on va dire, la Calédonie française. Et Poupoune, c'était quelqu'un aussi qui parlait souvent de l'unité.
Poupoune Debien, une personnalité de la brousse dont le timbre de voix très rocailleux était très reconnaissable. Harold Martin l'a très bien connu et il salue le défenseur de la Calédonie dans la France.
Poupoune, parce qu'on l'a toujours appelé Poupoune, ben c'était une figure du Nord qui a toujours et toujours, avec ce beau prénom qu'il avait, défendu la France. Pour Poupoune, la Calédonie devait être dans la France et nulle part ailleurs. Alors il y a ceux qui parlent, puis il y a ceux qui font. Poupoune a été un de ceux dans le Nord qui a fait beaucoup. Dans le Nord, il a toujours été respecté par tout le monde, y compris par les indépendantistes, parce qu'il a toujours été clair sur ses positions, sur ses convictions, qu'il a jamais eu peur de réaffirmer en toutes les situations. Et dans les années très difficiles, de 84, 85, de 88, il était là. Et ses actions, ses propres actions courageuses, difficiles, avec ceux du Nord à l'époque, évidemment, j'oublie pas Éric Babin, qui est décédé lui aussi malheureusement, et aussi Robert Frouin, le maire de Comac de l'époque, ben, ils n'ont pas eu peur d'être sur le terrain et d'imposer ce qui nous a permis ensuite d'arriver à des accords comme ceux de 88.
Poupoune Debien a été une figure de la résistance dans les années des événements. C'est aussi ce que retient de lui le député Nicolas Metzdorf.
J'ai appris la disparition de Poupoune avec une grande tristesse parce que quand on est un enfant de brousse, on connaît Poupoune depuis notre plus jeune âge. Je me souviens des réunions du Rassemblement, du RPCR même, avec Poupoune Debien qui prenait la parole avec cette voix si particulière. Il avait la voix de la terre, il avait la voix des convictions, il avait la voix du courage. Il va nous manquer, il va me manquer. C'était un monument des non-indépendantistes du Nord, mais plus globalement des Calédoniens de brousse. Et ça fait toujours du mal de voir que des figures comme ça disparaissent. Je veux bien sûr avoir une pensée pour sa famille, ses amis, et ils étaient nombreux, et leur dire que Poupoune a un héritage et qu'on essaye de tenir modestement le flambeau, mais je doute qu'on arrive à sa cheville parce qu'il a tenu des années en province Nord et c'est une grande source d'inspiration pour nous, pour moi. Donc ouais, je suis vraiment, vraiment très touché par sa disparition.
Des témoignages recueillis après l'annonce du décès hier de France Debien, dit Poupoune Debien. À sa famille et à ses proches, Radio Rythme Bleu tient à adresser ses plus sincères condoléances. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. On entendra ensuite le nouveau procureur général qui était notre invité ce matin et on se penchera sur l'actualité institutionnelle.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais !
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la Maison du Pain.
Ah, leur vrai fait salade. J'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi, et même pour le dîner, si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du Complexe Le 4, située au 186 rue Jacquier-Caoué, Le 4. Faites vos courses autrement.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le nouveau procureur général Camille Miansoni, arrivé vendredi dernier en Nouvelle-Calédonie pour prendre ses nouvelles fonctions, était ce matin notre invité à 7h30. Ces 11 dernières années, il a occupé les fonctions de procureur de la République, successivement à Verdun, Mayotte et Brest. Et il a d'abord tenu à rappeler quel était le rôle d'un procureur général.
J'ai pour mission, entre autres, de faire en sorte que les grandes instructions de politique pénale nationale puissent être traduites localement, donc avec une capacité d'adaptation en fonction des réalités du territoire. Et puis, surtout, sur un territoire comme celui-ci, un rôle d'assistance et d'accompagnement des collègues, des juridictions de base, de terrain, d'apporter un soutien, y compris dans la recherche des moyens, dans la facilitation de l'exercice de leurs fonctions.
Et pour exercer au mieux sa mission, le nouveau procureur général s'est fixé un premier axe de travail.
Tenter de comprendre le territoire pour essayer d'adapter au mieux les orientations qui doivent être définies. Mais surtout, je viens avec une idée maîtresse, c'est que toute société a besoin de justice. Quelles que soient ses institutions, quelle que soit son orientation politique, quel que soit son mode de fonctionnement, on a besoin d'une justice. Et mon rôle, c'est d'incarner cette justice qui soit objective, une justice surtout qui soit crédible. Et la crédibilité, elle tient à la façon de rendre la justice, à la qualité des décisions de justice, justice qui soit comprise aussi. L'une des critiques de la justice, mais vous le savez mieux que moi, c'est qu'on n'est pas toujours compris. Donc, essayer de faire en sorte que l'on soit compris, non pas pour suivre l'opinion et adapter les décisions en fonction de l'opinion. Vous savez que par nature, elle est changeante et parfois contradictoire, l'opinion. Hein. Mais surtout, essayer de rendre compréhensibles nos décisions, c'est un effort qu'on doit faire.
Rendre compréhensibles nos décisions, c'est un effort qu'on doit faire, déclare Camille Mioncioni, qui est conscient des critiques émises parfois à l'encontre de la justice.
Tout au long de ma carrière, j'ai toujours tenu ce discours-là. On ne peut pas rendre une bonne justice si elle ne l'est pas comprise. C'est pas simple. Parfois, on nous rend responsables des choses qui relèvent de la loi. Parfois, il y a des critiques qui sont formulées à l'endroit de la justice. Pourquoi, au bout de quelques mois, une personne est remise en liberté? Mais parfois, simplement parce que la loi dit... Au bout de tant de temps, de mois, il faut que la personne soit remise en liberté. Donc, il y a tout un travail d'explication. Mais en tout cas, une ambition d'écouter ce territoire, s'imprégner des réalités. Si on rend des décisions, même très belles, juridiquement, mais que personne ne comprend, on aura fait la moitié seulement du travail. Donc, on a une préoccupation qui est de faire en sorte que la justice, qui est un pilier de la société, soit comprise par ceux au nom de qui elle est rendue.
Le nouveau procureur général Camille Mioncioni arrivait vendredi dernier sur le territoire. Il était donc notre invité ce matin et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet. Autre changement au niveau judiciaire, l'arrivée du nouveau premier président de la Cour d'appel. Bruno Carl prendra ses fonctions le 3 juillet prochain en remplacement de Gilles Rosati. L'actualité institutionnelle avec une nouvelle séance publique au Congrès. Les élus étudient deux textes en seconde lecture. Nicolas Legrand, le premier texte est un projet de loi du pays relatif à la création d'une taxe sur les croisiéristes.
Oui, un texte déposé en 2023 et adopté le 2 mai 2024 à la majorité. L'éveil océanien s'était abstenu et Calédonien Ensemble avait voté contre. Finalement, une demande de seconde lecture avait été déposée par le président de la province Nord, Paul Néaoutin, conformément à l'article 103 de la loi organique qui précise que pendant les 15 jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du Congrès, le président d'une assemblée de province ou alors 11 membres du Congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du Congrès. Le texte est donc de nouveau retourné en commission avant la séance publique de ce matin et le débat portait en fait sur l'affectation du produit de cette taxe sur les passagers des bateaux de croisière dont le montant serait fixé d'ailleurs par une délibération du Congrès et qui pourrait correspondre à 1500 francs par passager. Dans le texte adopté en mai 2024, 20% revenait à Nouvelle-Calédonie Tourisme, 20% au port autonome et 60% affectés à un fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière qui affectait une partie aux communes concernées par les touchés et 83% de son enveloppe aux trois provinces, réparties à parts égales entre la province sud et la province des îles et beaucoup moins pour la province Nord, c'est-à-dire 10%. Le groupe UNI a donc déposé un amendement à la demande du président de la province Nord, Paul Néaoutin, qui souhaite que la taxe soit reversée à la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir en bénéficier à hauteur de la clé de répartition. En ouverture de cette séance, Omer Anneslin du groupe UCF-LNKS et Nationaliste a demandé une suspension en tant que rapporteur du texte. Pendant près d'une heure, les élus ont échangé au sujet de l'amendement déposé par le groupe UNI. Il a finalement été rejeté puisque seuls les groupes UNI et Calédonie Ensemble ainsi que l'Éveil Océanien ont voté pour. Calédonie Ensemble estimant que cette taxe devait être affectée à la Nouvelle-Calédonie pour faire face aux difficultés budgétaires rencontrées dans le contexte actuel. Sur l'ensemble du texte, eh bien finalement il a été adopté avec 33 voix des groupes UCF, LNKS et Nationalistes, des groupes Loyalistes et Rassemblement. Seul changement par rapport à la première lecture et à la première adoption en mai 2024, un amendement a été rajouté ce matin qui permettra au Congrès de revoir la répartition de l'affectation de la taxe chaque année en fonction des résultats présentés par le gouvernement. C'est en tout cas une satisfaction pour Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, qui a déclaré que cette taxe était utile car elle sera payée par des touristes étrangers. Philippe Blaise du groupe Loyaliste ajoute que la ventilation de cette taxe prévue dans le texte du gouvernement et votée ce jour permettra également de faire les investissements nécessaires pour améliorer l'accueil des croisiéristes, ce qui est une demande des professionnels du secteur et qui permettra ensuite de développer la filière. Alors le deuxième projet de loi du pays porte sur le domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie et la protection de la ressource en eau, un texte adopté en avril dernier, mais 18 conseillers des Loyalistes et du Rassemblement ont déposé là aussi une demande de seconde lecture, estimant qu'il entraînait une discrimination entre les terres de droit privé et les terres coutumières, qui seraient, selon les mots de Philippe Blaise, exonérées de leurs obligations en matière d'environnement. Jérémy Catigeau-Monny est membre du gouvernement en charge notamment de la politique de l'eau, a évoqué l'avis du Conseil d'État qui s'appuie sur la loi organique pour dire que la Nouvelle-Calédonie est compétente sur l'ensemble du domaine public, mais pas sur les terres coutumières. Les débats se poursuivent actuellement sur ce sujet. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
Toujours au chapitre institutionnel, le Conseil municipal du Mont-d'Or a approuvé son compte administratif 2024 lors d'une séance sans débat hier qui a permis de dresser le bilan financier de l'année écoulée, Elisabeth.
Une année 2024 compliquée, bien sûr, pour toutes les collectivités. Et ce sont à la fois le prêt garanti par l'État et les efforts réalisés, notamment en matière de diminution des charges de personnel, qui ont permis à la commune de se maintenir à flot. Au final, le Mont-d'Or a réussi à dégager un excédent de 334 millions de francs, malgré une baisse de recettes de près de 500 millions. Le résultat de l'exercice 2024 sera principalement affecté à la section investissement du budget 2025. Les précisions de Jean-Jacques Affchin, le premier adjoint au maire en charge des finances.
On a fait des efforts donc sur le fonctionnement, sur le personnel, mais aussi sur l'investissement. On a été obligé de réorienter nos choix puisqu'on n'avait pas les finances pour financer les travaux. Donc ce sont des investissements qui ont été reportés sur le budget 2025 avec les crédits nécessaires aussi. Les principaux investissements, c'est l'agrandissement du cimetière de Plume. Ce sont les études pour le futur centre de secours et d'incendie à la Coulée. Différentes AEP, notamment la Coulée, la fin du renforcement de l'AEP de Plume, c'est les principaux.
Le compte administratif 2024 a été approuvé à la majorité avec une abstention du groupe FLNKS. La décision modificative du budget sera examinée le 23 juillet lors du prochain conseil municipal. Et puis autre point à l'ordre du jour hier soir, le renouvellement pour 15 ans du contrat de délégation de services publics d'électricité à EEC ou encore l'attribution de diverses subventions.
La culture, la solution sacrifiée, c'est le nom de la pétition citoyenne dont s'est saisi le CESE qui a été débattue hier matin. Première pétition à franchir le seuil des 400 signatures sur la plateforme participative du CESE. Elle alerte sur les difficultés du secteur culturel depuis les émeutes. Après consultation d'une trentaine d'acteurs, un rapport de 35 pages appelle au soutien global de tous les métiers du secteur ainsi que 18 recommandations. Christian Roche, président de la commission de la culture au CESE, revient sur cette séance.
Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, beaucoup d'artistes dans les gradins parce que tout le monde est en attente. Donc c'est un secteur qui est en souffrance puisque la majorité des infrastructures culturelles ont été détruites pendant les émeutes. Sur les 18 recommandations, la priorité, si je puis dire, c'est forcément le financement. C'est toujours le nerf de la guerre. En sachant que dans les politiques publiques, la culture et le sport, c'est toujours les premiers qui trinquent quand il n'y a plus de sous. Dans les solutions, si vous voulez, c'est effectivement peut-être la formation et professionnalisation du secteur, c'est-à-dire la relance d'anciennes structures, le parcours des formations adaptées. La jeunesse et cohésion sociale, c'est le pass culture. Vraiment quelque chose qui était super. Les microfolies, la médiation culturelle, enfin l'action dans les quartiers.
Des structures culturelles fragiles qui inquiètent d'autant plus qu'elles touchent l'avenir des jeunes.
Je pense que la culture, c'est une cohésion sociale, c'est la reconstruction identitaire. Les jeunes, on le voit au travers du Rex. Tous les jeunes vont au Rex, en fait. Tous les artistes, ils sortent du Rex. Et tout de suite, après les émeutes, on s'est aperçu qu'il y avait encore plus de gens qui venaient fréquenter cet établissement qu'avant. Donc ça veut dire que les jeunes étaient complètement pris au dépourvu, tout ça. On a envie de se regrouper. Et puis, on est au bout du bout. Là, toutes les associations qui n'ont plus de subventions, tout ça, ils fonctionnent sur fonds propres. Mais quand ils auront plus de fonds propres, je veux dire, c'est terminé. C'est où maintenant les institutions elles viennent en aide, ou alors malheureusement je pense que la culture elle va s'arrêter, ou alors il va y avoir encore un mouvement de fond, si vous voulez, et donc de grogne quoi, il ne faut surtout pas ça.
Le CESE a fait ses recommandations, la suite dépend désormais de la décision des élus. La SIC a présenté hier après-midi sa nouvelle offre de logement pour les étudiants en partenariat avec la maison de l'étudiant au sein de la résidence Les Jardins du Trianon, route de Lanzvata. C'est une première dans les quartiers sud. Les 12 logements pouvant accueillir jusqu'à 21 personnes sont déjà occupés. Cette résidence, propriété de la SIC, a été rénovée pour 5 millions de francs et c'était nécessaire pour tenter de répondre aux nombreuses demandes, explique Georges Théaïraou, le responsable des logements étudiants à la SIC.
On a énormément de demandes de logements étudiants. Cette année, nous sommes à peu près à 1000 demandes pour 700 logements. Donc, la SIC a pu étudier dans son parc des résidences potentielles, justement, pour pouvoir accueillir ces étudiants. Et l'idée, c'était vraiment la proximité. Donc, de pouvoir fournir des logements à des étudiants qui n'auraient pas à se déplacer avec les difficultés de transport qu'on peut avoir, etc. À l'initial, les logements sont destinés essentiellement aux étudiants de BTS, du lycée Blaise Pascal, Escoffier, La Pérouse. Mais rien ne nous interdit de mettre aussi d'autres étudiants de l'université, etc., etc.
De leur côté, les étudiants saluent un vrai confort de vie, sentiment de liberté, proximité de l'établissement et qualité du lieu, un environnement important pour la réussite scolaire.
J'en avais besoin aussi pour l'autonomie. À notre âge, on a envie de prendre notre envol et de pouvoir vivre toute seule dans notre logement, donc je trouve ça bien. Ouais. On s'est bien installé avec ma colocataire Honorane. On s'est bien arrangé pour vivre ensemble, quoi.
Déjà, j'ai eu un grand séjour pour moi toute seule avec deux tables, un grand placard juste pour moi toute seule, et puis une plaque chauffante et après, j'ai la chambre, j'ai deux lits, j'ai deux matelas au top. Je suis beaucoup plus proche que Rivière-Salée et puis en plus, je suis toute seule maintenant. C'est bien, c'est mieux. C'est de base, je vis avec les parents là-bas au nord, alors c'est mieux de rester toute seule. Hein. On peut faire ce qu'on veut.
Les logements sont meublés avec un accès à une machine à laver et une place de parking. Pour déposer une demande et bénéficier de ce type d'habitation, l'inscription à la maison de l'étudiant est obligatoire. Des milliers de Nouméens ont fêté hier soir les 171 ans de la ville de Nouméa, avec en clou du spectacle évidemment le fameux lâcher de lanterne céleste. Elles ont illuminé le ciel de Magenta pour un moment magique et très attendu, partagé en famille ou entre amis. Des animations gratuites, des châteaux gonflables et des stands gourmands ont complété cette fête qui a ravi les personnes présentes.
Profiter de l'événement, voir beaucoup de gens, partager du plaisir, voir les lanternes qui s'élèvent dans le ciel et voilà quoi.
Je suis venu profiter avec ma famille à regarder les lanternes, partager un petit moment ensemble. C'est la famille qui m'ont poussé à venir. Hein. De base, moi, j'avais pas l'idée à venir. Je savais même pas qu'il y avait aujourd'hui. Du coup, je suis content quand même d'être là.
Je viens de rentrer au pays, là. Je suis en train de retrouver mes racines et ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de célébrer ça avec des lanternes. Avec l'éclairage, c'est parfait.
C'est féerique quand tout s'envole. C'est merveilleux. Puis quand on arrive à faire la sienne, vous voyez, c'est joli, c'est beau. Et puis je crois que ça a réuni pas mal de gens, des jeunes, des moins jeunes. C'est bien, c'est une bonne initiative.
Des propos recueillis hier soir par Axel de France. Il est 11h53. On va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Nouveau stock de deck cohue chez Allwoods, de 1,80 m à 5,70 m. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. Allwoods, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actualité à l'étranger. Après 12 jours de guerre contre l'Iran, Israël retrouve presque une vie normale. Les deux pays respectent le cessez-le-feu entré en vigueur hier, mais la situation reste très fragile. Toutefois, ce répit fait du bien aux habitants d'Israël. À Tel Aviv, la capitale, la vie reprend son cours presque normal. Le reportage de Wilfried de Villers pour Europe 1.
Désertés pendant 12 jours de guerre, ce sont d'abord sur les plages que les habitants de Tel Aviv se sont précipités dès la levée des restrictions. Les enfants d'Iris, les pieds couverts de sable, sont en train de jouer. C'est la première fois que la famille retourne sur le front de mer. Mais la prudence reste de mise.
C'est d'abord pour les enfants que l'on essaie de revenir à la normale. Mais c'est une transition très difficile parce qu'hier encore, des missiles s'abattaient sur Tel Aviv. Et soudain, ça y est, c'est le retour à la vie, au travail, au quotidien.
Pour Sharon aussi, la fin du cessez-le-feu, cette transition est particulière.
En fait, on est un peu dans le déni parce qu'on ne comprend pas comment hier on était en confinement et aujourd'hui on est complètement libre. C'est un peu spécial, mais après, je n'ai pas du tout peur de sortir dans la rue. Je sais qu'il n'y aura pas de requête. fait. C'est-à-dire que ils prennent aucun risque pour nous, ça c'est évident.
Dans le centre-ville, sur l'avenue Rothschild, la plupart des commerces sont à nouveau ouverts. José profite du soleil à la terrasse d'un café, sans être en alerte, ni avoir à repérer l'abri le plus proche.
La première fois où j'ai fait une nuit complète, et que mieux que ça, parce que ce qui est le plus angoissant, c'est toujours d'être à suivre sur les réseaux, l'évolution, attention, il va y avoir un missile. Hier, j'ai mis le téléphone de côté, je n'ai pas regardé une seule fois le téléphone et les annonces.
José n'espère qu'une chose, que le cessez-le-feu dure le plus longtemps possible. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.
Après 12 jours de bombardements israéliens et américains, le régime de Téhéran reconnaît de son côté des dégâts importants sur ses installations nucléaires, sans plus de précision. Il est pour l'instant difficile de savoir comment ont été touchées ces installations souterraines, mais pour Donald Trump, pas doute, la victoire est totale.
Nous avons détruit leur nucléaire, complètement détruit même. Je l'ai déjà dit, l'Iran n'aura pas de nucléaire, nous l'avons fait exploser, il n'existe plus. Et grâce à cette incroyable démonstration de force, nous avons ouvert la voie à la paix.
Des négociations sur le nucléaire iranien pourraient reprendre dès la semaine prochaine. Donald Trump a fait cette déclaration à l'issue du sommet de l'OTAN qui serait formé après 2 jours de travaux à La Haye. Dans sa déclaration finale, les 32 pays membres renouvellent leur engagement inébranlable à se défendre mutuellement en cas d'attaque. Ils promettent aussi, c'était une exigence de Donald Trump, de consacrer 5% de leur PIB au budget de la défense dans leur propre pays. Les alliés occidentaux ont plutôt ménagé le président américain, excepté Emmanuel Macron, qui estime que le président doit se plier à la règle du donnant-donnant.
Cet effort collectif et le bon résultat qu'on a avec ce communiqué et ce réengagement européen, il impose de manière évidente la paix commerciale. On ne peut pas entre alliés dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Il est très important qu'on puisse revenir à ce qui devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés, c'est-à-dire une véritable paix du commerce.
Emmanuel Macron lors de la clôture du sommet de l'OTAN à La Haye. En métropole, François Bayrou a-t-il provisoirement sauvé son poste à Matignon ? Le Premier ministre prendra la parole la nuit prochaine pour nous pour rendre publiques les dernières conclusions du conclave sur les retraites. Si rien de saillant n'en est sorti, il a reçu tour à tour chacune des organisations patronales et syndicales. Le Parti socialiste a déposé une motion de censure, mais le Rassemblement national a indiqué qu'il ne la voterait pas. François Bayrou semble donc avoir gagné son pari. Jacques Serret pour Europe 1.
François Bayrou a toujours dit depuis son arrivée à Matignon qu'il avait devant lui un Himalaya de difficultés. Cette semaine, il vient de franchir un col important. Si le conclave sur les retraites n'a abouti à aucun accord, il a le mérite pour le Premier ministre de lui avoir fait gagner du temps. Un écran de fumée qui l'a protégé ces derniers mois d'une chute prématurée telle que l'a vécu Michel Barnier. Alors les retraites restent la pierre d'achoppement des élus socialistes, mais Olivier Faure et ses troupes n'y peuvent plus rien sans les voix du Rassemblement National. Et le groupe de Marine Le Pen ne compte pas à ce stade faire tomber François Bayrou sur cet enjeu. Autrement dit, le RN devient indispensable à son maintien à Matignon. Le Premier ministre y trouve son compte en prolongeant son bail rue de Varennes. Et le RN aussi en s'affirmant encore comme le maître du jeu. Reste que le sablier est enclenché et les jours comptés. Le Rassemblement national promet déjà d'être intransigeant avec le maire de Pau cet automne lors de l'examen du budget.
Il sera 11h59 dans quelques secondes. La dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et de se retrouver ensuite pour les Jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Très bonne nouvelle, le Passeport Gourmand lance sa 22e édition. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans une sélection de restaurants, snacking, traiteurs, mais aussi des loisirs et du bien-être partout en Calédonie. Le Passeport Gourmand, c'est votre guide de découverte prestigieux, idéal pour les bons vivants et les gourmands du Caillou. Disponible dès maintenant en édition limitée, alors ne tardez pas, réservez le vôtre sur www.passeportgourmand.nc ou directement au bureau à Val-Plaisance. Renseignements au 25 25 02.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
Tout le sport, en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va d'abord parler football et pas de finale pour les Bleuets à l'Euro Espoir en Slovaquie, Léo Fichou.
Et non, les moins de 21 ans de l'équipe de France ont été sèchement balayés par l'Allemagne en demi-finale ce matin. Une lourde défaite, 3-0 qui prive les tricolores d'une finale dans cet Euro Espoir. Un titre qui leur échappe d'ailleurs depuis 1988. En finale ce week-end, les Allemands affronteront l'Angleterre. Les Anglais tenants du titre qui sont difficilement venus à bout des Pays-Bas de 2-1, c'était cette nuit.
Et puis du tennis avec la suite et la fin ce soir des qualifications à Wimbledon. Deux tricolores sont assurés de rejoindre le tableau principal.
Oui, puisqu'il y aura deux duels franco-français ce soir au troisième et dernier tour des qualifications. Chez les dames, Alizé Cornet sera opposée à Elsa Jacquemot. Chez les hommes, Valentin Royer affrontera Tito Androguet. D'autres tricolores entendront de rallier le tableau principal du troisième tournoi du Grand Chelem de la saison après l'Open d'Australie et Roland-Garros. Diane Paris chez les dames, mais aussi Kyrian Jacquet, Luka Pavlovic, Arthur Cazot et Adrien Manarino chez les hommes. Les rencontres débuteront à 21h, heure de Nouméa.
Sur le territoire, le club Dumbéa Natation et le centre aquatique régional de Dumbéa ont fêté hier après-midi leur fin de saison, calée sur le calendrier métropolitain. C'était à la piscine de Coutio. Une centaine de nageurs, petits et grands, étaient rassemblés pour un moment convivial, placé sous le signe du partage et du sport. L'occasion de clore une année sportive dans la bonne humeur autour d'animations aquatiques, d'une chasse au trésor et une course de toboggan. Les participants semblaient satisfaits de l'événement et surtout d'avoir pu partager le bassin avec les jeunes générations.
On joue et on nage pour faire des démonstrations et pour initier les plus petits aussi à la compétition. Oh, moi j'adore, c'est vraiment mes trucs préférés.
On peut rencontrer tous les petits car d'habitude on ne les voit pas beaucoup et on profite d'un moment tous ensemble. Au collège, j'essaye d'inciter les gens à venir faire de la natation avec nous et aussi hors du collège.
C'est bien, ils sont tous heureux et tout, ils sont contents et tout, c'est principal.
Et pour couronner cette journée un moment fort, la démonstration de nage d'Adrien Salvan, ancien membre de l'équipe de France qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il est évidemment satisfait de l'accueil, mais il est aussi surpris par le niveau des nageurs calédoniens.
Ouais, c'était sympa en fait. Et le midi, je viens nager à Coutio sur mes pauses. Donc ils m'ont proposé de venir pour la fête du club. Donc j'ai accepté tout de suite parce que c'est toujours des moments assez marrants. Donc, voilà, ça fait plaisir aux enfants de voir des nageurs qui ont fait des grandes compétitions. Bah, c'est avec plaisir que je fais ça, quoi. Calédonie, ça m'a toujours surpris le niveau qui sortait de cette île en fait. Il y a encore quelques semaines, il y a Ethan Duménil qui s'est qualifié au chemin du monde. Avant ça, il y avait Mathieu Hébeau, Maxime Rousset. Voilà, il y a toujours des grands nageurs, même au niveau national, il y a toujours énormément de nageurs, donc très impressionnant.
Et la journée s'est clôturée par un grand goûter qui a réuni les enfants, les entraîneurs et leurs parents. Il est midi 2, c'est la fin de ce journal.